un Stéphane d'expérience. On met son foie dans la balance.
93. Dupont le matin.
Mes sports dans Dupont le matin vous sont présentés par Suspension Michel Jeffrey. Ton travail, c'est de conduire un camion? Confie-le à des gens qui font ça depuis 35 ans. Pour les camions, les remorques, la suspension et l'entretien, le spécialiste, c'est Suspension Michel Jeffrey, 2717 Avenue Watt.
Au FM 93, les sports avec Ray Cloutier.
Il est le meilleur de la business dans le monde du sport. Il m'a fait faire tantôt. Ah, ouais! Parce que.
Atlanta?
Ben, j'ai écouté un bout de la game. Ben, le début, évidemment, c'était assez rare. Ben, parce que j'ai écouté le bout du début, là. Mm-hmm. Et les Panthers semblaient être très en contrôle.
Oui.
Puis il y a eu un toucher sur un genre de petit. Pas un fake, ou je sais pas comment, un jeu truqué, là, tu sais.
Oui.
Ils ont donné le ballon à Bridgewater. Là, je me suis dit, OK, c'est terminé, mm-hmm. c'est réglé. Mais ça a changé.
Ça a changé. Les Atlanta Falcons ont fini par gagner 25-17 cette partie hier du jeudi soir pour débuter la semaine numéro 8. Atlanta a une bonne équipe. Puis là, ben, ils se retrouvent avec un dossier de 2 victoires et 6 défaites. Ils ont échappé quelques avances depuis le début de la saison. Voilà pourquoi ils se retrouvent à toute fin pratique hors des séries éliminatoires. Mais c'est une meilleure équipe que leur dossier de 2-6. Yongki Koo a réussi 4 placements pour les Falcons. C'est la première fois que j'entendais parler de ce gars-là. Je voulais vous le nommer ce matin, ça me tentait. Yongki Koo.
C'est K-O-O. K-O, OK.
Yongki, là.
C'est un batteur, lui.
Oui, c'est le batteur, lui. Il batte bien, Stéphane.
C'est vrai?
Ah oui, 4 placements.
Mais c'est un gars, mettons, qui a joué dans les collèges américains
oui,
ou qui arrive...
Oui, je pourrais pas te dire où. Non, il arrive pas sur le flag, là. Il passait dans la rue. Mais, ah, on va aller donner mon nom ici.
Il n'était pas d'un conteneur, là.
Non, c'est ça. T'es repêché tout le kit, là. Puis pratique, puis... C'est ça.
Mais non, mais c'est parce que c'est toi qui m'as parlé d'un batteur la semaine passée qui arrivait de qui arrivait du soccer.
Oui,
là.
De l'Australie.
Ouais,
de l'Australie, du rugby. On parle à Danny tantôt, puis je suis certain que ça se parle là-bas en Australie, les batteurs qui sont recrutés ici en Amérique du Nord.
Mais est-ce que...
une école là-bas en Australie.
OK, mais quel est le cheminement avant d'arriver à la NFL?
Les collèges. C'est les collèges qui recrutent.
Okay.
Un peu comme ici, les équipes juniors de hockey... vont chercher des Européens. Les botteurs en Australie, parce qu'ils sont forts, eux autres, avec le rugby australien.
Okay.
Il y a une école de botteurs qui a été créée. Si c'est pas par la NFL, c'est pas loin. En Australie, parce qu'il y a un potentiel pour les botteurs de ce côté-là. Et les collèges américains donnent des bourses d'études à des botteurs pour qu'ils viennent ici, en Amérique du Nord.
Donc, ils jouent un petit peu dans les collèges américains, quelques saisons, je ne sais pas. Puis ensuite, vont à la NFL.
Ouais.
OK. Ce que probablement M. Koo a fait.
Ben, peut-être, oui. Okay. Effectivement, que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour les Panthers de la Caroline, Bridgewater, le carrière, a été blessé au 3e quart. Il s'est fait sonner, puis il a dû aller dans l'attente là, pour le protocole de commotion. Il est revenu à la fin du match. Mais pendant quelques jeux, il a été remplacé par un dénommé P.J. Walker. Lui, c'était le meilleur joueur de la XFL. La XFL a duré 4 semaines, 5 semaines. Là.
Ouais.
Après ça, la pandémie a frappé, puis la XFL, ça a été vendu. Je pense que The Rock a racheté ça, la XFL. Mais lui, ce P.J. Walker-là, a joué à l'Université Temple sous les ordres de Matt Rhule, qui est le nouveau coach des Panthers de la Caroline. Mais pendant les 4-5 semaines que la XFL a duré, il jouait avec l'équipe de Houston, sauf erreur. Ça a été de loin le meilleur carrière. Puis c'est là qu'il s'est fait revoir et que les Panthers lui ont offert un contrat. Mais hier, il était sur le terrain pour un match de la NFL quand même. Puis il a pas mal fait. Sauf que Bridgewater est revenu par après. C'est lui le quart numéro 1. Mais c'est ça.
Il y a quel âge, mettons?
Fin vingtaine, je crois bien.
Okay.
P.J. Walker, oui.
Okay.
Mais c'est
belle histoire, quand même.
C'est un deuxième quart. Oui. Il s'est refait une carrière, si on veut, avec la XFL. Parce qu'il n'y a pas de ligue en bas de la NFL. Il n'y a pas de ligue américaine de hockey. Un gars qui ne fait pas un alignement de la NFL... Mais il faut qu'il aille jouer dans une ligue de bedaine à quelque part. Puis, honnêtement, ça donne pas grand-chose. Il fait autre chose.
J'ai envie de dire, peut-être, puis toi, tu connais ça plus que moi, mais que, mettons, la ligne en dessous, c'est ce qu'ils appellent les équipes de pratique.
Oui, mais quand tu fais pas l'équipe de pratique.
Quand
exemple, Mathieu Betts.
Ouais.
T'sais, Mathieu Betts, oui, il s'est amené dans la Ligue canadienne de football, mais il est beaucoup plus professeur dans la vie de tous les jours que joueur de football maintenant. Là. Et son rêve de la NFL... Est...
Mais il y a eu rien qu'une chance.
Il y a eu une chance.
Tu sais, il y a eu une chance, puis...
Il y en a qui ne l'ont pas, lui, il l'a eu.
Oui, moi, mais il n'a eu rien qu'une.
C'est vrai.
Tu sais, c'est poche. Il aurait pu dire, travaille sur certains aspects de ton jeu, puis reviens-nous, mais il n'y a pas de ça.
Il ne peut pas faire ça.
C'est ça. Puis d'ailleurs, le pire, semble-t-il, c'était pour des joueurs qui avaient eu leur chance, puis qui ont joué dans la NFL, puis qui, quand ensuite, qui étaient remplacés par un autre... si tu avais eu de l'expérience dans la NFL, tu pouvais pas être mis sur une équipe de pratique.
Ouais.
Fait que là, les gars se ramassaient devant rien. Oui. Si t'étais juste borderline, oui, t'avais jamais deux chances, t'en allais chez vous.
C'est ça, chauffeur de camion, puis commis d'épicerie. Kurt Warner a gagné le Super Bowl. Kurt Warner, avec les Rams de Saint-Louis à l'époque, a gagné le Super Bowl. Mais pendant quelques mois, il s'est retrouvé crisseur d'une épicerie.
Ouais,
parce qu'il n'y avait, pas d'équipe. Puis les Rams, à un moment donné, se sont retrouvés dans le besoin, puis ils ont fait signe.
Joe Flacco, même affaire, il jouait pas, il restait dans une roulotte chez sa grand-mère.
Ouais.
Puis il avait emprunté un char, il avait même pas de char.
Ouais.
Puis c'est comme ça, tu sais, des fois, les histoires sont pas toujours parfaites. Là.
Non, mais non. Effectivement. Donc, semaine numéro 8, qui sera très intéressante encore dans la NFL, ce sera les débuts de Tua Tagovailoa avec les Dolphins de Miami. En fait, comme quart partant avec les Dolphins, dimanche contre les Rams de Los Angeles. C'est quand même un gros test en partant contre une des meilleures défensives de la NFL. J'aime bien Tua Tagovailoa, mais on lui rend ça difficile pour le début de son aventure comme carrière partant. Il va être le premier carrière gaucher en 5 ans à être partant dans la NFL. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2015. C'est rare, les carrières gauchers. Et c'est encore plus rare, les carrières gauchers qui ont du succès. Tua Tagovailoa est un carrière gaucher. C'est Kellen Moore, le dernier carrière gaucher des Cowboys de Dallas à la fin de la saison 2015, qui a été le dernier gaucher à débuter un match.
Il n'a pas débuté beaucoup, d'après moi.
Non, il n'a pas le fait. Il est maintenant, instructeur avec les Cowboys. Sa carrière a été courte et touchante.
Si je te parle d'un bon, moi j'ai un nom en tête, puis je pense qu'il jouait dans ton équipe.
Steve Young. Steve Young était... Mais pour les plus vieux, c'est peut-être Ken Stabler avec les Raiders d'Oakland, numéro 12. Une patte gauche, il avait une barbe, il avait l'air d'un bum, mais il était bon.
OK.
Jim Zorn avec les Seahawks de Seattle, c'est un des meilleurs corps gauchers aussi qu'il y a eu. Mais il y en a eu très peu, là, vraiment peu.
C'est pas beaucoup, on a de la misère à nommer.
Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la NFL. Là. Et la seule équipe toujours invaincue, les Steelers, s'en vont jouer à Baltimore. Ça va être un match difficile pour les Steelers. C'est une rivalité naturelle. C'est deux équipes qui s'aguissent comme faux. Les Ravens ont aussi un bon début de saison à 5 victoires et 1 défaite. Ça va être un bon match à surveiller. On fera le tour tout à l'heure pour la fin de semaine numéro 8 de football. Mais une des nouvelles qui retient l'attention dans le monde du football, c'est le carrière de l'Université Clemson, Trevor Lawrence, qui est pressenti pour être le premier choix au repêchage de la NFL au mois d'avril prochain. Il a contracté la COVID-19, ce qui fait qu'il ne jouera pas en fin de semaine. Clemson joue contre Boston College. Donc, c'est sûr qu'il ne joue pas ce match-là. Et la semaine prochaine, Clemson joue contre l'Université Notre Dame. Ça, c'est un match qui implique deux des meilleures équipes aux États-Unis. Puis, avec le processus, le protocole de la COVID-19, ça va être rien que juste pour que Trevor Lawrence joue le match de la semaine prochaine. Mais c'est ça, ça arrive et c'est comme ça. Puis, on disait hier que pour qu'un match de football collégial soit annulé, il faut que 5% de l'équipe soit touchée par la COVID-19. Comme là, lui, Trevor Lawrence est touché. On dit qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont contracté la COVID-19 parce que lui, il n'a pas de co-chambreur. Dans la vie de tous les jours, il est tout seul. Il reste en appartement puis il reste seul. Donc ça, c'est un avantage. Mais si 5% de l'équipe est touchée, le match est annulé. Puis le match n'est pas repris. C'est arrivé, là, le match de l'Université Wisconsin a été annulé en fin de semaine parce qu'il y a plus que 5% des joueurs qui sont touchés par la COVID-19. C'est sûr qu'à 50, même 60, 70 joueurs dans une équipe de football collégial, là, c'est plate, c'est le meilleur joueur de football collégial qui est atteint par la COVID, mais tu n'annules pas un match parce qu'un seul joueur a contracté la COVID, ou même deux ou trois. Là.
Mm-hmm.
Donc ça permet que la saison se déroule quand même. Là. À part de ça, dans le monde du hockey, hier, 47 joueurs ont reçu leur invitation pour le camp de sélection finale d'équipe Canada Junior, dont 9 représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 47, c'est beaucoup, mais habituellement, on fait un tri un peu plus. Il y a des camps, il y a un camp estival. Il y en a eu un camp estival, mais c'était virtuel. Donc, c'est sur la patinoire. On n'a pas pu tester ben de joueurs. Donc là, on se donne une chance. Le camp de sélection est plus long. On va débuter à la mi-novembre à Red Deer, en Alberta. Le tournoi à proprement dit débute le 25 décembre à Edmonton, dans la ville d'Edmonton. Ça va être le fun parce que il n'y aura pas d'hockey ben. Déjà que ça retient l'attention, ce tournoi-là, pour les amateurs d'événements, puis les amateurs de hockey, c'est sûr, il va y avoir beaucoup d'intérêt. Des 47 joueurs, donc 9 de la Ligue junior majeure du Québec, il y a 6 attaquants, Jacob Pelletier, fierté de la région de Québec, Dawson Mercer, Hendrix Lapierre, Xavier Simoneau, Maverick Bourque, Samuel Poulain, et 3 défenseurs, les trois des défenseurs des Maritimes. Justin Barron, Luca Cormier et Jordan Spence ont été invités par André Tourigny et le groupe d'entraîneurs.
Donc, les jeunes ont été invités. Ça va être bon. Ils passeront pas, mais c'est ça lui met un pied dans la porte oui. pour les autres saisons.
Il y en a qui vont passer, Steph. Jacob va faire l'équipe.
Ben oui, oui, mais c'est pas un 17 ans, Jacob.
19, non, c'est ça, t'as raison. Dawson Mercer va faire l'équipe.
C'est un 19 aussi.
Oui. Oui, c'est un late. Il est rendu à 19. Hendrix Lapierre, je pense pas. Okay. Il a 18 ans. Xavier Simoneau a 19 ans. C'est un petit bonhomme, pas repêché dans la Ligue nationale de hockey.
Ah non? Il joue où, lui?
À Drummondville, capitaine okay. Des Voltigeurs. Il a eu un historique de commotion cérébrale dans sa carrière de joueur, mais c'est un petit bonhomme très combatif. C'est un des meilleurs joueurs de la LHJMQ, là, présentement.
Okay.
Il est pas gros. C'est pour ça qu'il est pas repêché. Déjà qu'il soit invité au camp de sélection finale d'équipe Canada Junior, pour lui, personnellement, c'est sûrement une belle victoire, là, d'être invité à ce tournoi-là. Je crois pas qu'il va percer l'alignement. Maverick Bourque, à mon avis, il a des chances de percer l'alignement. Samuel Poulin aussi a des chances de percer l'alignement d'équipe
18?
Canada Junior. Ils sont à 19 même. Samuel est rendu à 19.
Ah, okay.
Maverick Bourque a 18, vient d'être repêché, première okay. ronde. Les trois défenseurs, Justin Barron, qui est le capitaine des Mooseheads, c'est un late lui aussi. Il doit être proche de 19 ans. Il appartient à l'Avalanche du Colorado. Lui a des chances de faire l'équipe d'un patineur extraordinaire, Justin Barron. Luca Cormier est trop jeune à 18 ans. Puis Jordan Spence a des chances, je pense. Donc, il pourrait y avoir 5-6 représentants de la Ligue junior majeure du Québec.
Pas de goaler, c'est surprenant.
Non, mais il y a un gardien montréalais qui a été invité, Devon Levy. Lui joue dans les collèges américains. C'est un produit de l'organisation du lac Saint-Louis. Il fait même pas 6 pieds. On l'annonce à 6 pieds. Là, c'est pour, ça fait bien à 6 pieds. Ça fait mieux que 5 et 10 ou 5 et 11.
Ouais, oui, 5 et 9 et demi.
On l'a mesuré en patin. Mais il est très bon. Il est très okay. vite. Puis qui a reçu l'invitation, c'est très bon pour lui. Alexis Lafrenière, c'est possible que les Rangers prêtent ses services pour Équipe Canada Junior. Le DG Jeff Gorton hier a dit, on est ouvert à ça. On se reparle dans quelques jours. On va jaser de la situation ensemble et avec Alexis, bien sûr. Et Kirby Dack, qui a joué cette année avec les Hawks de Chicago dans les séries, là, dans le retour de l'action de la Ligue nationale de hockey, a été prêté par les Hawks à Équipe Canada Junior. Lui faisait partie de l'équipe championne de l'an dernier. Donc, voilà. Et il y a un jeune homme de 16 ans qui a été invité. Shane Wright, lui, joue dans l'Ontario. C'est un exceptionnel qui a eu une saison extraordinaire l'an dernier avec les Frontenacs de Kingston. Si jamais il perce l'alignement d'Équipe Canada Junior, il va devenir seulement le 7e joueur de 16 ans à jouer avec Équipe Canada Junior. Si on fait le tour rapidement ensemble, Gretzky, Lindros, Spezza, Boomeister, Sidney Crosby, puis Connor McDavid ont joué à 16 ans avec Équipe Canada Junior. Ben, ça a bien été. Je te dirais que ça a bien été. Donc, Shane Wright, là, retenez son nom, pas pour le repêchage 2021, mais le repêchage 2022. Il y a des bonnes chances que ce soit le premier choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey. La santé publique a dit qu'il n'allait pas y avoir de match pour l'instant en zone rouge pour les équipes de la LHJMQ qui sont dans la zone rouge, mais on est ouvert à discuter, puis entre autres, on a avancé la possibilité de regrouper. Il y a 6 équipes présentement qui sont dans des zones rouges, de les regrouper au même endroit, faire une ville-bulle, et puis leur permettre de jouer des matchs. On n'a pas parlé de la ville où ça pourrait se faire, mais je pense que Québec est bien placé pour accueillir ce genre de situation avec le centre Vidéotron. Ça peut être une autre ville aussi, là, mais...
Est-ce que le fait que le PJ soit juste à côté peut aider?
Moi, ça pourrait aider, ça aussi. Il y a un autre aréna pas loin, effectivement. Mais ça, c'est des mesures temporaires. T'sais, éventuellement, là, on va revenir en zone orange. Là, on restera pas en zone rouge éternellement, mais c'est parce que pendant ce temps-là, ça joue ailleurs, comme en fin de semaine, ça joue sur la Côte-Nord, ça joue en Abitibi. Dans les Maritimes, ça a pratiquement pas arrêté. Là, on se retrouve avec un écart de match qui grandit entre les équipes qui continuent à jouer puis celles qui jouent pas. C'est un peu ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de trouver une solution pour continuer à jouer dans les circonstances. Mais, tu sais, on peut comprendre qu'on fait pas d'exception pour la Ligue junior majeure du Québec. Là, on voit bien qu'on est pris dans les zones rouges. On demande à tout le monde de restreindre leurs activités. Donc, faut être compréhensif dans ces circonstances-là. Puis je reste dans le hockey pour parler de Mitchell Miller. Mitchell Miller, c'est lui qui a été le choix de 4e ronde des Coyotes de l'Arizona. Il a fait parler de lui cette semaine. C'est ce gars-là qui a fait du bullying et du racisme.
Mais il y a plusieurs années.
Il y a de ça 4 ans. Ouais. Mais les Coyotes de l'Arizona ont décidé de le sacrer dehors. Ils ont, ils ont libéré ses droits. Ils ont décidé qu'il appartenait plus aux Coyotes de l'Arizona.
Ah ben.
Ils l'ont libéré.
Tu sais, je trouve ça dommage. Et le
ben
gars,
oui, parce qu'au début de la semaine, il disait on va l'aider dans ses, dans cette aventure-là, mettons. Mais là, les Coyotes, la pression populaire était forte quand même. Là.
Oui, mais comment qu'il va s'en sortir? Tu sais, je veux dire, il a fait ça, lui, avec 14 ans,
ouais.
Il y a 4 ans.
Ouais.
Il a eu des sanctions sévères, en tout cas des sanctions ouais. qui ont été appliquées et respectées.
Ouais, il a payé sa dette, mettons.
D'une certaine façon, ah ben, je trouve ça un petit peu particulier.
Mais sais-tu quoi? Je pense que les Coyotes n'étaient pas au courant de tout le dossier.
Mm-hmm.
Ça se peut. Il y a des équipes qui ont dit, nous autres, on savait, on connaissait ce passé-là. C'est là qu'on revient aux dépisteurs, pareil, là. De faire sa job comme faut, entre guillemets, puis d'essayer d'en savoir le plus possible sur l'individu. Ça me laisse l'impression que l'organisation des Coyotes n'était pas au courant de tout le dossier.
Mais oui, mais il faut le laisser jouer au hockey, là, quand même. Oui,
c'est t'sais. Ça. Il va faire quoi là, à partir de là, c'est ça?
Mais là, il faut qu'il y ait une invitation au moins dans la Ligue américaine. Il était repêché. Là. C'est un gars qui doit être de niveau.
Avec un certain potentiel.
Ouais. Un certain potentiel, c'est certain.
Si ça avait été un choix de première ronde, peut-être que le outcome aurait été différent. Ça se peut-tu?
Peut-être. C'est un choix de quatrième. Là, je comprends qu'il ne sera pas d'invitation dans un camp de la Ligue nationale de hockey.
Mais il continue, c'est au Dakota, je crois qu'il il va à l'université. Là. Il joue dans l'équipe du Dakota.
Peut-être que là, son passage là devrait peut-être l'amener à avoir, je sais pas, à montrer patte blanche en tout cas pour les ouais. pour son comportement. Là. C'est arrivé, hein, comme on le disait, il y avait 14 ans seulement. Là. Je trouve ça un peu...
C'est sévère.
Sévère, exact.
C'est rough. Course automobile, bien sûr qu'on va être attentif en fin de semaine. Ce soir, Raphaël Lessard en action, ça se passe à Martinsville, le petit ovale de Martinsville. C'est à 20h ce soir la course de Raphaël. Puis demain, le jeune Donald Teague, à 54 ans, va piloter une voiture dans la série Xfinity. Sera coéquipier d'Alex Labbé dans son écurie. Ça, c'est demain en fin d'après-midi pour la course de Donald. Puis, as-tu vu les voitures? C'est comme décoré style Halloween, là, la plupart des voitures.
Okay. Okay, non, j'ai pas vu comme, ça.
Tu vois, là, il y a des petits décors particuliers. Okay, là, okay. Toutes les voitures font ça pour la course de Martinsville, de ce que j'ai compris. Puis Donald va piloter la voiture numéro 90 de l'écurie de Mario Gosselin. Mais en Formule 1, on retourne à Imola en fin de semaine. Première fois en 14 ans. C'est la troisième course en Italie cette saison parce qu'évidemment, on a concentré les courses de Formule 1 en Europe un peu plus. 13e course de la saison. Et à Imola, bien, c'est là où... Ayrton Senna s'est tué à Imola.
Ouais, mais t'as-tu vu le reportage RDS hier?
Non.
T'as pas vu ça?
Non.
La fin de semaine, Ayrton Senna est mort à Imola.
En 94,
le dimanche, ouais. Lors de la course.
Ouais.
Il est passé droit au bout de la grande ligne droite. Il y a un virage à 90 degrés vers la gauche.
Ouais.
Et il a passé droit. Sa voiture a frappé le mur de côté. Le pneu avant droit a arraché, puis il est venu lui casser le cou.
Ouais.
Et on voyait les images encore hier. Ayrton Senna, la voiture là, se déplace de côté sur la piste tout brisé, là, puis tu vois qu'il est mort. Là. Ouais. Ou en tout cas inconscient, assurément. Le samedi d'avant,
Ratzenberger
meurt en qualification en Formule 1, puis le vendredi.
Ouais. Gilles aussi a eu un accident à Imola.
Ben oui, Gilles a eu un gros accident à Imola, mais le vendredi, il y avait un mort aussi. C'est qui le mort le vendredi à Imola en 94?
C'est samedi, ça?
C'est le samedi. Il y a eu trois morts cette fin de semaine-là. Attends, le gars du vendredi... Hey, lui, le gars du vendredi, là, son char est parti dans les airs. Mm-hmm. Check donc ça, Pierre Imola.
Check ça. Check.
94.
Check, 1-2.
Accident grave. Il me semble qu'il est mort, le troisième pilote.
Il serait pas mort. J'ai vraiment Ratzenberger puis Senna en 94 qui sont décédés, mais je vais essayer de te trouver. Là,
mais le plus gros accident, ouais. RDS, hier, dans un reportage, là, parlait de l'historique de Imola.
Imola, ouais.
C'est un historique tragique.
Ouais.
C'est
pour ça, je pense, qu'ils sont pas retournés. Ça se peut-tu?
Ça se peut. Ça se
Ils ont arrêté d'y aller à tout le moins. Mais évidemment, il y a d'autres circuits comme ça. Ils sont allés au Mugello cette année.
Je l'ai trouvé, c'est Rubens Barrichello.
Okay.
C'est Rubens Barrichello, sa voiture part dans les...
Il n'est pas décédé.
Non, il n'est pas mort. Hey, mais c'est le plus gros accident au niveau des images. Là. Mm-hmm. Lui, c'est arrivé le vendredi, qui était un jeune pilote à l'époque. Barrichello, donc, frappe le haut du mur, parce que c'est comme un avion. C'est incroyable. Puis là, après ça, il se met à faire des tonneaux quand il rebondit.
Plusieurs tonneaux, puis seulement un nez cassé et un bras cassé.
Juste un nez.
OK. Imaginez là, l'impact.
Puis je touche du bois, mais il y a moins d'accidents, puis évidemment, il y a moins de morts en Formule 1.
Oui, c'est beaucoup moins. On a tellement corrigé. Tu sais, il y a un endroit où il y avait beaucoup de morts, c'est les moteurs calés au départ. Tu sais, les autos partaient pas. Eux autres, ils pognent 100 000 à l'heure en 2 secondes et demie.
Ils ont amélioré la sécurité, pas juste en Formule 1.
Oui, dans tout.
En NASCAR.
Dans à peu près tout. Oui. Regarde, le dernier mort, c'est le jeune Français en Formule 2.
Hubert.
Antoine Hubert.
Okay. Ça, c'est récent quand même.
Ça, c'est récent, c'est l'année passée. Ça a fait un an, là, il n'y a pas longtemps.
Ben, ça arrive. T'sais, malheureusement, c'est de la course.
C'est de la
vitesse.
Ouais.
C'est impossible. Le risque zéro, pour reprendre une expression qu'on entend pas mal de ce temps-ci, il n'existe pas.
C'est que les endroits où c'est accidentogène, mettons, là, t'sais, dans les virages ou tout ça, on a tellement repoussé les zones de dégagement que mais tu prenais le Grand Prix de Montréal, par exemple. Il y a très peu d'endroits où ça peut être dangereux. T'sais, dans Senna, ça va pas assez vite. Dans l'épingle, il y a tellement de dégagement. Par contre, sur la longue ligne droite qui ramène vers les garages, si, mettons, il y en a un qui fait une fausse manœuvre, ce qui est très, très, très rare, puis qui va frapper le mur de côté, c'est fini, là. Il est à 300, au-dessus de 300. C'est terminé, là. T'sais, fait qu'il va faire un Greg Moore de lui-même, il va se ramasser avec les yeux dans le fond du casque, là.
Et voilà.
C'est aussi tragique que ça. Fait que...
Le dernier décès en F1, c'est 2017, David Ferrer. C'était pendant la course.
Hey, je me souviens pas de ça, tout.
Ouais.
Tout, moi non plus.
Ça me dit rien. T'es sûr de ça, toi?
Ben, j'ai les casualties en Formule 1.
Ouais.
Le 2 septembre 2017.
OK.
On dit au Historic Formula 1 Grand Prix.
Ouais, c'était peut-être... OK.
Je suis de Catalunya.
Catalunya? En Espagne. OK, je me souviens pas de ça.
Fait que, 2017.
OK. Donc, voilà, ça s'est beaucoup amélioré. Donc, beaucoup de courses automobiles en fin de semaine.
Oui.
Moi, c'est sûr, c'est en soirée pour Raphaël Lessard et Donald Teague.
Ce soir, c'est Raphaël. Demain, Donald. C'est pas en fin d'après-midi, Donald?
En fin d'après-midi. Hey, moi, je vais essayer de suivre ça, certain.
Ce soir, Raphaël, c'est à 8h.
Bon, fait que...
À Martinsville.
Puis Martinsville, c'est un petit ovale, mais pas nécessairement petit sur la longueur, mais... Les deux bouts sont très, très étroits.
Ouais.
Ça veut dire que t'as accès...
Ça va,
Stéphane? Oui, mais j'ai imité le moteur du char à Donald.
Le Seigneur est dans le moteur. J'ai deux, trois choses en terminant.
Oui.
76 ans, Tony La Russa dirigera les White Sox de Chicago l'an prochain. Ça me fait rire quand même. Il a fait ses débuts en 1979. Si je ne m'abuse, il y a 4 ou 5 joueurs seulement qui va diriger... qui était né quand
Tony La Russa a commencé à coacher.
Oui,
wow.
Exactement. Il est 3e pour les victoires en carrière avec 2728 derrière Connie Mack et John McGraw qui sont de regrettée mémoire tous les deux. Et Tony La Russa a gagné 3 fois la Série mondiale avec les A's d'Oakland en 89 et avec les Cards de Saint-Louis en 2006 et en 2011. Le tennis à Vienne en fin de semaine, le golf aux Bermudes, puis je veux terminer en te parlant de Travis Roy. Est-ce que ça dit quelque chose?
Pas du tout.
Travis Roy est un jeune...
Un fils à Patrick?
Non, ça n'a pas de lien de
Travis
parenté.
Travis Roy.
Mais c'est un joueur d'hockey. C'est un joueur d'hockey natif de Yarmouth dans le Maine. Hier, il est décédé à l'âge de 45 ans. Mais Travis Roy, à l'âge de 20 ans, a fait ses débuts avec Boston University. C'est un gars du Maine, donc c'est un gars de la Nouvelle-Angleterre. Puis jouer pour Boston U, c'était prestigieux. C'est un très bon joueur de hockey, Travis Roy. Première présence avec Boston University, ça a duré 11 secondes. Il a donné une mise en échec à un joueur qui s'en va pour aller chercher la rondelle dans le coin à la gauche de son gardien de but. Le joueur de l'équipe adverse prend possession de la rondelle, puis Roy, comme un bon défenseur doit faire, va prendre son homme. Il frappe le joueur, mais continue son élan, réussit pas à se contrôler, la tête première dans la bande. Résultat, 4e et 5e vertèbre cassée, c'est terminé. Il reste étendu sur la patinoire, sa carrière de hockeyeur finit là. Il devient quadraplégique, Travis Roy.
Gelé du coup des épaules en bas.
Ça, c'est à l'âge de 20 ans, en 1995. Et jusqu'à récemment, parce qu'il est décédé hier, pendant ces 25 années-là, Lui, il a dit, ça m'arrêtera pas, ça, là. C'est sûr, je peux plus jouer au hockey, là. Mais il a travaillé à amasser des fonds, à développer la recherche pour ce genre de situation pour les athlètes et les gens handicapés pour vivre avec ça. Puis, sa fondation a amassé des millions et des millions de dollars, Travis Roy. Puis, il est décédé hier à l'âge de 45 ans. Il y a un livre qui a été écrit, ça s'appelle 11 Seconds, parce que ça a duré 11 secondes, sa carrière. Puis, ESPN a fait un documentaire aussi sur lui, Travis Roy. C'est le seul joueur dont son chandail a été retiré par Boston University, numéro 24. C'est une légende là, en Nouvelle-Angleterre. Puis hier, ça a rendu triste beaucoup de gens.
Ah oui? Ben, je comprends. Donc, c'est triste. J'en viens pas de cette histoire-là. Ouais. C'est drôle. Puis quand tu le décris, j'ai l'impression d'avoir déjà vu les images sûrement de son accident. Mais ouais, de son accident au hockey, c'est ouais, ce qui est arrivé.
Raymond Bourque a eu des bons mots pour lui hier. Raymond Bourque est très impliqué dans la communauté en Nouvelle-Angleterre. Puis évidemment, c'est une icône des Bruins de Boston. Mais Travis Roy, c'est quasiment... C'est ce rang-là de légende. Là. Bobby Orr, Raymond Bourque, Travis Roy, pour tout ce qu'il a fait, tout l'ensemble de son œuvre.
Pas lui qui vendait des stylos Colisée, là.
Non. La recherche...
Réponds pas. Réponds pas à ça.
Non, j'ai pas répondu. Donc, mais une triste journée hier d'apprendre ouais, ce décès-là. Il devait subir une xème opération parce qu'on comprenait, quand tu deviens quadraplégique, tu passes souvent, t'es testé, puis t'as des opérations à subir. Mm-hmm. Puis il en a subi une récemment et ça a mal tourné. Donc, il savait que malheureusement, ça s'en allait vers la fin. Mais puis je veux revoir ça. Je veux le voir, le documentaire.
Ben, hey, si tu le trouves, tu le publieras peut-être sur ton Facebook.
Ouais.
Ou bien tu me le diras. En tout cas, on va partager ouais, tout ça. Fait que à travers toutes tes pages de golf, là, ça va être une petite page de hockey.
Enfin, quelque chose d'intéressant.
Enfin, ouais, c'est ça. Mais c'est pas une bonne semaine. T'sais, au début de la semaine, Joey Moss est décédé, là, le trisomique qui a travaillé dans l'entourage des
oui,
Oilers.
C'est vrai. C'est
des
vrai.
gens qui ont traversé des épreuves, mais qui ont justement réussi à vivre malgré tout ça.
Des gens de cœur.
Qui ont été source d'inspiration pour beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, exactement. Ben, merci, Ray. Très intéressant. Moi, c'est drôle, hier, hein, j'ai réécouté un autre documentaire sur le meurtre de Nicole Brown et Ron Goldman. Ouais.
O.J.
Ah, puis là, hier, c'est sur un autre angle complètement. C'est vraiment l'angle de la police, des premiers intervenants. Hey! C'est incroyable que ce gars-là s'en soit tiré de ça.
Bien sûr.
C'est incroyable.
C'est évident. C'est évident comme un chevreuil dans le milieu du chemin.
Hier, le documentaire, c'était surtout basé sur le policier qui travaille ce soir-là. T'sais, lui, c'est un peu un hasard. C'est un policier qui était déjà avec beaucoup d'ancienneté. Là. Fait que là, il reçoit le dinosaure en dans le studio. Il le monte sur Twitch, il capote raide de voir un dinosaure en studio. D'ailleurs, la police a été appelée.
mais lui, il travaille, par
donc,
hasard.
La policier, il travaille. Lui, c'est son soir, son chef, il est appelé. Puis, il voit même pas Goldman au début, là. Il voit Nicole Brown, mais elle a été tellement frappée à coups de couteau, là, qu'il y a les os du corps qui sortent par certaines, dans le cou, oh, entre autres, là. Tu sais, c'est épouvantable. Mais dès les premières minutes, premièrement, c'est que là, les enfants dorment dans la maison. Ils ont deux enfants, deux jeunes enfants, Nicole Brown puis O.J.
Oui.
Simpson,
oui,
qui dorment dans la maison. Fait que, puis là, elle est agressée sur le trottoir à l'extérieur, et Goldman est un petit peu plus loin. Puis lui, il est encore plus blessé parce qu'il a tenté de se défendre. Fait que ça explique aussi la théorie que c'est un hasard que Goldman a été. C'était pas. Est-ce que vous aviez dans l'idée que Goldman, 25 ans seulement, était l'amant de Nicole Brown?
Oui, je pense que oui, dans ma tête.
Non, mais pas du tout.
Ouais.
Pas du tout.
Mm-hmm.
Là,
c'était ça qu'il pensait, lui aussi.
Non.
Non?
Ben là, en tout cas...
Parce qu'il y a de la jalousie dans son geste, là.
Oui, il y a de la jalousie, mais en même temps, c'est que Goldman est là pour une seule raison. C'est que la mère à Nicole Brown a échappé ses lunettes au restaurant, ses lunettes de vue, et elle les a pas trouvées ou oubliées. Et c'est là que Nicole Brown a appelé au restaurant en disant, y a-tu quelqu'un qui a vu les lunettes? Oui. Et lui, Goldman...
Il est parti chercher les lunettes.
Il a ramassé, il s'en allait lui porter à la maison. Et on pense qu'il est arrivé, puis O.J. avait commencé son... Là, c'est O.J. ou son fils, là, il y a cette histoire-là qui traîne, mais c'est clairement O.J. Simpson. Là.
Ah oui.
Mais En tout cas, il Goldman serait arrivé comme sur le coup. Et là, lui a essayé de défendre la femme, la jeune femme. Et il a été beaucoup blessé aux mains. Puis ensuite, tué à coup de poignard. Puis Nicole Brown a été rachevé. Et tout ça pour dire que le premier enquêteur qui arrive sur les lieux, OK, là, on constate les décès, gèle la scène de crime, va réveiller les enfants, les font sortir par une autre porte, parce que ça se passe à l'arrière de la maison, sortent les enfants, les mettent dans une autopatrouille, et là, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants? La mère vient d'être tuée, on va les porter à l'autre parent. Ouais. L'autre parent étant O.J. Simpson, trouve son adresse, s'en vont chez O.J. Simpson, cogne à la porte. Son bronco blanc est parqué tout croche dehors, même pas dans la cour, mais dans la rue. Fait que le policier s'approche, là, on vient porter les enfants, là. Il y a du sang après la poignée. Ben ben. Fait que Cogne n'est pas là. Il y a trois maisons, lui, sur son domaine, O.J. Simpson, dont son entraîneur personnel et ami, ou homme de ménage, on ne sait plus trop ce qu'il faisait là, lui. Là, on va cogner chez lui. Puis là, lui, il dit, non, il est parti à Chicago en avion. Mais il vient juste de partir. OK? Fait que là, je sais pas ce qu'ils font avec les enfants, mais ils sont là. Puis il dit, c'est drôle, mais il dit, j'ai entendu du bruit bizarre aussi en arrière de ma maison. Parce que lui, c'est vraiment une maison d'employés qui est en arrière. Les policiers font le tour de la maison, ils vont voir.
Il part dans le bronco.
Non, il était déjà parti. Simpson avait pris l'avion, lui. Déjà.
OK, ouais,
parce
c'est
que
ça. Ouais,
quand
c'est
il vrai. L'appelle, il est à Chicago.
Ouais.
Mais tu sais, ça se déroule en certaines heures. Là, ce que
c'est
je vous...
quelques jours plus tard que... La course en bronco.
Oui, c'est quelques jours plus tard. Mais là, le soir même, quand ils sont là pour lui ramener les enfants, puis que l'homme de maintenance dit, mais c'est drôle, hein? Ça a vibré dans mon mur de maison, moi, vers 10h30 et 45, c'est l'heure où les meurtres sont arrivés vers 10h15.
Ça leur met la puce à l'oreille.
Fait qu'ils partent, ils font le tour de la maison, ils ont vu du sang sur la porte du bronco, là.
C'est juste là.
Puis là, ils s'en vont en arrière, et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la cour? Moi, ça, je savais pas ça. Ils trouvent un gant plein de sang.
If it doesn't fit, you must acquit.
Oui, mais c'est pas de ce gant-là dont on parle. Toi, le gant dont tu parles, qui a acquitté Simpson parce que le gant ne lui rentre pas dans la main parce qu'il est
l'avocat,
comme trop petit.
L'avocat Cochrane en cours qui
présente dit ça.
Le gant.
Il dit, si ce gant-là,
fait pas.
Trouvé sur les lieux du crime, ne fait pas, c'est pas le coupable.
C'est ça. Ça a été ça, son argumentaire.
Mais le deuxième gant de cette paire-là, il est chez Simpson, plein de sang dans le cours.
Ouais.
Ça, je me souviens pas de ça, moi. Hier, là, j'écoutais ça, je disais, mais voyons donc.
C'est quoi pas faire aussi pour un gant, là?
Ouais, en même temps, aussi. Puis, c'est sûr que c'est les nombreuses pistes qui ont suivi, qui ont peut-être mélangé la police. Tu sais, le fils d'O.J., qui avait énormément de problèmes, qui était chef cuisinier dans un restaurant où Nicole Brown avait réservé des tables parce que les enfants de Simpson étaient en spectacle ce soir-là. Elle a cancellé pour aller dans le restaurant, parce que c'était quand même son ami Goldman. Puis elle a cancellé, on dit que ça l'aurait perturbé. On pense que Nicole Brown a vu, comment il s'appelle le fils d'O.J., donc Kevin? En tout cas, peu importe. Elle pense qu'elle l'a vu à quelques reprises dans les semaines avant, puis il la suivait partout. Puis là, on comprend
Jason.
Pas pourquoi. Jason. Donc, on comprend pas trop pourquoi. Il était pas très équilibré. Tu sais, il y avait des problèmes. Mais tu sais, O.J., en même temps, il y a une feuille de violence. Il y a 62 photos distinctes à la police de L.A. de violence conjugale.
Mais on parle d'un gars qui était l'idole d'un peuple. Ouais. Donc, il y a des gens qui croyaient pas ça jamais. D'abord, ce matin, il y a des gens qui le croient sûrement pas encore. Que
encore.
C'est lui qui l'a fait. Tu sais, c'est Guy Lafleur, O.J. Simpson. Là. C'est,
oui, mais...
C'était une vedette incroyable.
Mais Ray, moi qui ne suivais pas la NFL à cette époque-là, puis qui connaissais pas ça, je suis content aujourd'hui parce qu'il n'a pas gardé vraiment ce statut-là. Mais... quand tu écoutes certains documentaires, au moment où il prend sa retraite et au moment où il est un des premiers joueurs à devenir un des meilleurs analystes,
ouais,
parce qu'il est coloré.
Il travaillait à Monday Night Football.
Ouais, il devient très coloré.
Il faisait des pubs. On le voyait courir pour l'annonce de Hertz là, dans l'aéroport. Là.
OK.
Il fait des films aussi.
OK. Ouais, il a participé à plusieurs films. Mais au moment où il prend sa retraite, on dit de lui qu'il est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la NFL.
Ouais.
Imaginez-vous. Fait que je suis content que tout ce côté-là, pour ceux qui sont venus après, ben on a oublié ce segment-là
oui.
de ce gars-là. Fait que c'est fascinant de voir qu'il s'en soit tiré, mais malgré que c'est des problèmes et des problèmes.
Il a réussi à se faire arrêter pour faire de la prison par après ensuite. Il était tellement. C'était pas fort. En dessous du casque, là, on m'a dit une affaire.
Lui, il a été pris dans un par le FBI. Puis ça, c'est un autre documentaire. J'ai écouté il y a plusieurs semaines. Là. C'est les deux agents du FBI qui l'ont coincé. Puis c'était dans le coup de.
C'était pour racheter ses souvenirs, là?
Ouais. Non, mais il a vendu ses souvenirs à un gars.
C'est ça.
Puis il a demandé de les porter. Il a tout checké dans la maison pour savoir par où il allait rentrer. Il est allé revoler le soir même. Puis ils ont revendu à quelqu'un d'autre.
C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, là.
Non. Là, hey, je te dis.
Il s'est demandé s'il est conscient de ce qu'il fait. T'sais, à un moment donné, il laissait des gants de ci, de ça. Tu sais, je veux dire, tu t'en fous complètement de tes gestes.
Mais moi, je pense qu'ajouté au fait que, honnêtement, c'est un gars qui n'a pas un grand jugement, son standing, lui, il devait se croire invincible, O.J. Simpson.
Ça y est, monté à
tête. Déjà, comme quand il est joueur, il est marié, il a un enfant. Et là, il rencontre Nicole Brown qui a 18 ans. Elle vient d'avoir 18 ans.
Belle femme.
Et elle était très, très, très jolie. Elle est serveuse dans un restaurant, un bar où il va. Et à la première rencontre, il tombe en amour, déclaration d'amour, et il ne la quittera quasiment plus. Mais il est marié. Fait que là c'était compliqué. Tu sais, il était en relation quasiment connue avec Nicole Brown. Pendant que sa femme était pas au courant, fallait pas qu'elle regarde un journal trop, là.
Ouais.
Tu sais? Fait que c'était quelque chose.
Quelque chose.
Bon, encore un relan de l'histoire, mais j'ai écouté toutes sortes d'émissions. Hey, chirurgie botchée hier. Alors, mais tu me regardes, là, je te jure. Pascal, tu sais, je te jure.
Pascal, c'est lui.
Si t'avais. Ma blonde, elle aime pas ça, cette émission-là. Et hier, parce que là, à un moment donné, il faut aller se coucher, là. Et elle a enregistré la fin. Moi, je l'avais déjà vu.
Mais il y avait une opération là-dedans. Moi, ça m'aide beaucoup.
C'était la régénération. J'ai-tu le temps?
Non. Ben non.
Non, pas du tout. Ça depuis fait déjà quelques minutes.
Depuis tantôt que tu n'as plus le temps.
Vas-y, t'as les nouvelles, Steph, t'es habitué.
Non, mais on s'en va en Australie, les nouvelles.
Ah oui, garoche.
Vite, la femme, c'est difficile de dire son âge. Tu sais, il y a des femmes, c'est pas méchant, mais vous avez de l'air plus vieille que votre âge. Mais.
Puis toi, il y a 10 ans, t'avais l'air plus vieux.
Elle a eu des enfants, elle a eu des problèmes de poids. Son poids a beaucoup varié, puis les enfants ont beaucoup tété, fait que elle s'est ramassée avec des queues de castor. Et elle s'est fait refaire les seins par un botcheux, OK? Ah. Un gars, puis il voulait l'impressionner. Et ça, là, c'est ahurissant.
Le chirurgien qui voulait l'impressionner.
C'est bon, ça.
Oui, il a voulu... le chirurgien... Ça, moi, honnêtement, là, c'est l'époque des faux seins en eau saline et des faux seins installés sur le muscle. Donc, il n'y a que la peau qui retient la prothèse. Le gars, il a installé des poches de 600 ml... 600 millilitres.
C'est beaucoup, ça?
C'est
plus
que
des pamplemousses?
C'est plus que des danseuses, mettons. C'est gros. C'est pas Marie-Claude Bourbonnais. Marie-Claude, ça doit être du 750 ou je sais pas quoi, là. Ah. Mais donnez-moi des noms, on va dire la grosseur.
C'est trois boîtes de petits jus.
Donnez-moi des noms.
Fait que, non, mais t'as pas eu. C'était des prothèses à l'eau saline qui se remplissaient par après l'installation pour donner une moins grande
avec
cicatrice.
Une seringue, là, ouais.
Exact. OK. Et elle, on lui a installé des poches de 600 ml, mais on a injecté 750 ml dans la poche.
Ah, ça a-tu éclaté?
Ça n'a pas éclaté, mais elle s'est ramassée avec des seins énormes. Elle n'avait plus... Elle le raconte. Elle dit, j'avais plus de corps, j'avais juste des seins.
It is going to pet, I guess, là.
Oui,
mais... 750,
sais-tu qu'est-ce qui a pété? Son moral a pété. Et elle est tombée en dépression. Elle a pris énormément de poids. Puis, mais c'est, tu sais, il y a des gens qui ont cette temps. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu une chirurgie bariatrique pour perdre le poids. Elle a reperdu tout son poids. Et hier, tu sais, dans la chirurgie botchée, là, les filles se montrent clairement, là. Tu sais, l'autre fille, dans la même émission, là, c'est le plus gros cul que j'ai vu de ma vie.
Comment?
Elle s'est fait injecter. Ray, juste une fesse, c'est plus gros que mon corps à moi. Elle en a deux. C'est incroyable.
Mais c'est shooté, là. C'est
ouais,
pas...
Oui, shooté.
Mais tu magasines où, mettons?
Mais elle dit qu'elle s'est fait arrêter par la police à un moment donné. Puis le policier l'a fait débarquer du char. Puis elle pissait du cul. C'est...
Hein?
Je vous le jure! Hey, allez l'écouter. La fille, elle s'était fait injecter dans les fesses.
Ouais.
Et le liquide sortait... Puis le policier dit, qu'est-ce que vous avez là aux fesses? Ben, elle dit, ils m'ont fait des injections, là, puis ça a pas refermé.
Ça, c'est supposé être plus beau, là, au final.
Ah non, hey, c'est dégueulasse.
J'en prendrais, moi. Je rendais avec les os pointus puis la peau mince.
OK. Là, je reviens à mes affaires de soins parce que ça, c'est très, très sérieux. Puis c'était...
Ça va très bien.
C'était très intéressant.
Où je suis tombé?
Et là, la madame, là, qui est toujours avec son mari, d'ailleurs, là, puis c'est une belle femme, là.
Mets ta capine, hey, Pascal.
Elle avait... Regarde-moi, Pascal. Regarde-moi. Les gens sur Twitch, vous allez le voir, là.
Je vous regarde.
Elle avait un sein ici. Oubliez pas que c'est un 750 ml. Elle a un sein ici, puis elle a l'autre là.
Pourquoi? Parce que ça a tombé en plus?
Ah oui, tombé. Il n'y a plus aucune attache.
Fait que pour ceux qui n'ont pas
avec
Twitch,
le haut
là,
du corps.
Elle a un sein dans le ventre.
Exact. Elle en a un peu en bas du nombril. Le docteur DeVro, il prend son tape à mesurer. Il dit, j'ai jamais vu des seins. Il compte toujours ça à partir de l'os de la clavicule du côté du sein.
Ouais.
Il dit, j'ai jamais vu en bas de 24 cm.
Les boules bossent ma belle.
Il mesure. Elle est à 31 cm.
Ça y a distance. Coûté combien? Sais-tu,
il parle jamais d'argent dans cette émission-là, vu que c'est une production. D'après moi, ça coûte rien.
Là, je veux saisir. Là, est-ce que la prothèse est tombée dans le corps ou le sein. Tu comprends
la prothèse, elle a glissé, mais le sein suit. Et donc, normalement,
vers
la peau...
Vers l'intérieur?
Y a-tu quelqu'un que je pourrais pincer? C'est gars m'a pincé moi. Vois-tu ici, si je me pince, là?
Oui.
Vois-tu la mode que ça donne?
Ouais.
J'ai pas de gras sur l'omoplate, moi.
T'es de même, toi, t'es fait de
pas de gras sur l'omoplate.
C'est une des rares places que j'ai pas de gras, OK?
Ouais.
Fait que j'ai à peu près... Regarde, j'ai à peu près 2 cm de peau, tu sais, de tissu. Elle, le sein qui est rendu à 31 km de sa clavicule... le gars, il est à 31 cm. Elle a... moins de 8 mm de peau. Okay. Le médecin...
Le
médecin, il prend son cellulaire, il allume la flashlight de son iPhone, il met la flashlight en dessous du sein de la madame, on va bon bord, là. C'est comme clair le jour. C'est incroyable. Et là, il...
C'est
très triste.
Ah, c'est pas la même.
C'est très, très triste. Et là, il dit, pour vous, là, je vais tenter une expérience qui se fait à peu près jamais. Une opération que je suis le seul bizarre à effectuer, mais qui, je pense, va sauver vos seins.
Wow.
Et ce qu'il a fait, là, parce qu'il dit ce que vous avez besoin. Il dit, on pourrait couper et faire d'autres prothèses, mais votre sein va mourir. Parce que, moi, je savais pas que l'importance que le sang circule dans les tissus, c'est ça qui garde notre peau en vie. Tu sais, quelqu'un qui.
Ça fait pas cette importance-là, oui.
OK, oui, mais elle a plus que 8 mm de peau qui est une feuille de papier. Fait qu'il dit, il y a presque plus d'apport sanguin, puis ça, vos mamelons, regardez comme vos mamelons sont pas beaux. Fait que là, on voit tout ça. Non, mais c'est capoté. Et là, ce qu'il fait, il introduit une seringue avec une pompe et il vide les 750 ml des deux bords, mais il laisse la poche là. Il dit, vide ça. Et quand tu vois l'image, quand il a fini, là, c'est comme ton costume, Pascal. C'est comme il y a des dessoufflés.
T'es un peu frippé.
Frippé, dessoufflé. Et il la renvoie chez elle pendant 2 ou 4 mois. Je me souviens pas.
Pendant 2 ou 4 mois, elle a encore sa poche à l'intérieur.
Elle a plus de sein, là. Elle a plus rien,
elle a
rien,
la
rien
poche,
là. Elle a la poche de plastique est prise à l'intérieur de sa peau.
Sérieux, pauvre elle.
Non, attends un peu. Mais.
J'attends plus tantôt.
Quand elle revient pour son opération, c'est que le docteur voulait faire une seule anesthésie. Et quand elle revient, il a pogné sa peau, là. Elle n'avait plus que moi. Toute sa peau s'était régénérée, n'ayant plus de poids à supporter. Il l'a réopérée, réinstallé des prothèses, enlevé évidemment les poches, les vieilles poches, mis des nouvelles prothèses en silicone, redrapage, bang. C'était pas parfait, là, mais presque.
C'est de la
Il y a une question que j'aimerais ça te poser, là. C'est comment être sexe symbole?
Sacramouille. Tu parles d'un parcours pareil, hein?
Oui, mais j'ai trouvé l'idée derrière. Moi, de les idées intelligentes, là, de dire, là, ce que tu as besoin, c'est que ta peau se régénère, puis le corps humain, je le dis souvent, là, se régénère d'une façon extraordinaire. Mm. Puis hier, c'était au niveau des seins, là.
Mais on a parlé des poumons, la semaine passée, où il y a
des poumons,
oui.
Ouais. Mais les tendons, regarde, on opère de moins en moins les tendons, on s'aperçoit que la reconstruction par elle-même d'un tendon va être plus solide. Recoudre et rattacher.
Surtout quand la personne fait des exercices pour garder l'élasticité du tendon. Hein?
C'était chirurgie botchée d'hier.
T'as bien botché.
Mais, hein?
T'as bien botché.
Ah, je vais pas parler de la fille. Mais la fille des grosses fesses, je sais pas la fin. Je sais que le médecin m'a dit la seule affaire, ce serait de vous amputer le dardier. Puis elle veut pas parce qu'elle est une vedette.
Elle pensait se rasseoir une fois de temps en temps, ça a l'air. Fait
elle, elle a un podcast, semble-t-il, qui est très suivi aux États-Unis, qui s'appelle Les problèmes de mon gros cul, en anglais. Podcast. Je le sais pas. C'est deux filles avec des gros culs.
Ben, ça prend un bon trône, là.
Hein?
Ça prend un bon trône.
Ah, ça rentre pas dans tous les chars. Tu sais, tu peux pas mettre ça sur la bisque à gaz.
Ça doit faire des besoins de temps en temps.
Je pense que ça s'appelle...
Ah, OK, toi, c'est à ce trône-là que tu parlais?
Non, mais elle s'est fait poser des seins pour faire un podcast sur les problèmes de mon gros...
Non, pas des seins. Non, c'est pas la même, là. Tu mélanges le soir.
Non, j'ai pas dit ça.
Ta fille, elle s'est fait injecter dans les fesses pour avoir des grosses fesses.
Oui, t'as dit la fille aux grosses fesses, elle a un podcast.
Oui.
Fait qu'elle, elle a subi une opération qui fait en sorte qu'elle... jute de là, puis...
Ça coule.
Elle trouve ça... tellement le fun et intéressant qu'elle en fait un podcast.
Non, elle trouve pas ça le fun. Elle parle des problèmes que elle, c'est que
sa
fesse est devenue tellement grosse qu'elle a descendu sur ses cuisses.
J'ai pas de pitié. Colin.
J'ai une pensée pour le banc de toilette de plastique quand même un peu. Là.
T'as de la pitié pour lui, toi. J'ai de la pitié pour la femme au sein, mais pas pour celle aux fesses.
Les bancs de toilette chez nous, de la toilette d'en bas est cassée.
On a pitié aussi pour celui-là.
Mais là, mes gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui s'apprêtait d'être arrivé à la course, il a slidé de côté. J'ai pas de réponse. Merci pour les sports. Oui, les sports, deux, trois choses en terminant.
C'est terminé.
Retour des textos.
Oui, ça marche.
Les premier texto reçu, les grands dossiers à matin.
Oui, monsieur.
Ben, les grands dossiers, c'est dans Trouland. Ils reçoivent Jean Charest, oui. Trudeau Landry. Et en primeur, je vous annonce que ça va être... D'ailleurs, les caméras de télévision vont peut-être vous présenter son arrivée. Jean Charest rapporte tout l'argent qui a été pris illégalement. Alors, il ramène ça dans Trudeau Landry aujourd'hui. Ça doit être plusieurs camions qui vont ramener tout cet argent-là. Mais en tout cas, moi, je reste jusqu'à midi pour voir ça.